L'année dernière, une cour de justice française a dû répondre à une question qui ressemble, à s'y méprendre à un sujet d'examen de philo de fin d'année.
Ah oui, le fameux sujet improbable.
Ouais, genre, est-ce qu'un simple présentoir à pommes de terre peut être considéré comme une œuvre d'art et donc être protégé par la loi exactement au même titre qu'un tableau de Picasso?
C'est vrai que formulé comme ça fait sourire.
Complètement. Mais la réponse à cette question, loin d'être juste une petite anecdote juridique marrante, ça a déclenché une guerre financière impitoyable dans les coulisses de la grande distribution.
Ouais. Et c'est une porte d'entrée frappante pour aborder ce sujet. Parce qu'en réalité, le droit français repose sur un principe fondamental, tu vois,
Lequel?
ce qu'on appelle l'unité de l'art. Historiquement, la loi refuse de faire une hiérarchie entre l'art qu'on dit pur, genre la peinture ou la sculpture, et l'art appliqué, c'est-à-dire le design d'objets utilitaires.
D'accord, donc pas de différence de statut en gros.
Exactement. Si une création remplit certains critères stricts, peu importe qu'elle serve à exposer la Joconde ou à empiler des courgettes, elle a droit à la même protection intellectuelle.
C'est fascinant.
Ouais, mais le truc, c'est que prouver qu'un meuble de supermarché remplit ces fameux critères, c'est là que le véritable casse-tête commence.
Et c'est précisément l'objectif de notre plongée au cœur des sources d'aujourd'hui. On va examiner deux documents judiciaires hyper captivants.
Lesquels, pour qu'on soit au clair?
Alors le premier, c'est un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes. Il est daté du 26 novembre 2024. Et le second document, qui vient vraiment chambouler toute l'affaire, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui date du 9 avril 2026.
D'accord, donc on a la décision et son revirement.
C'est ça. Et à travers ces deux textes, on va suivre l'affrontement acharné entre deux sociétés qui sont spécialisées dans l'agencement de magasins. Someva d'un côté et Evma de l'autre.
Il faut bien comprendre que l'enjeu de cette bataille, il dépasse largement le petit cadre de ces deux entreprises.
Ah oui, hein?
Ah bah oui, ces documents illustrent vraiment la tension permanente dans le monde du design industriel. T'as d'un côté la nécessité pour les distributeurs d'avoir des équipements fonctionnels, solides et pas trop chers.
Ouais, logique.
Et de l'autre côté, t'as la volonté des créateurs de protéger le fruit de leur réflexion intellectuelle, quoi, pour éviter ce qu'ils perçoivent clairement comme du pillage commercial.
Et le fil conducteur qu'on va suivre tout au long de cette exploration, en fait, c'est d'essayer de comprendre cette frontière un peu invisible, presque microscopique, que le droit essaye de tracer.
Entre l'utilitaire et l'artistique, c'est ça.
Exactement. Où s'arrête la simple tendance fonctionnelle, tu sais, dictée par l'optimisation de l'espace de vente, et où commence la véritable œuvre d'art appliquée. Bon, décortiquons tout ça.
Allons-y.
Commençons par le tout début. Parce qu'avant d'arriver dans les plus hautes sphères de la justice, à la Cour de cassation, il faut se pencher sur le point de départ concret de ce conflit, sur le terrain.
Tout à fait. Et pour trouver l'origine de cette affaire, faut remonter au mois de mai 2018.
C'était où?
Dans la commune de Châteaubourg, en Ille-et-Vilaine, il y a un super U dans cette ville qui lance en appel d'offres tout ce qu'il y a de plus banal en apparence.
Genre refaire les rayons, hein?
Voilà, il s'agissait de remplacer l'intégralité du mobilier de son rayon fruits et légumes. Et dans ce secteur ultra concurrentiel, il y a deux sociétés qui répondent à l'appel.
Someva et Evma, nos fameux protagonistes.
Exactement.
Tu sais, c'est vraiment le genre de situation que, enfin, quiconque a déjà travaillé en agence, en freelance ou même dû répondre à un appel d'offres connaît par cœur.
Ah oui, la pression du devis.
Ouais, tu mets tout ton cœur dans une proposition pour essayer de te démarquer des autres, et c'est très exactement ce qu'a fait la société Someva, si on lit bien les documents.
C'est même un point central de leur argumentaire. Someva n'arrive pas juste avec un devis chiffré sur un coin de table, tu vois.
Ils ont fait un gros dossier.
Énorme. Ils fournissent un dossier de conception super détaillé. Ils proposent des designs très spécifiques qu'ils ont même baptisés pour bien montrer qu'il s'agit de concepts globaux et réfléchis.
Il y avait quoi comme nom du coup?
Alors on y trouve un meuble sobrement nommé concept. Il y a aussi le mural bio et ce qu'ils appellent l'habillage grandole. Ça, c'est destiné aux fruits secs et aux pommes de terre.
D'accord.
Et ils chiffrent cette prestation sur mesure avec toute cette recherche esthétique à un montant très précis.
Qui est deux?
87 775,17 € et hors taxe en plus.
Ah ouais, d'accord. Le souci, c'est que le dénouement de cet appel d'offres a un goût super amer pour eux. Parce que finalement, le super U de Châteaubourg, il choisit le concurrent.
Evma.
Ouais. Et le devis d'Evma, il est nettement inférieur. Il tourne autour de 75 000 € en gros.
Ce qui fait une belle différence, ouais.
Grave. Et jusque-là, on pourrait se dire, de façon un peu cynique, que c'est juste la cruauté habituelle du marché. Le client a préféré l'option la moins chère, point final.
Fin de l'histoire.
Non, justement. Parce que la pilule, elle passe pas du tout pour Someva. Et la raison, c'est que les meubles qui sont finalement installés dans le supermarché par Evma ressemblent, mais trait pour trait, au plan ultra détaillé que Someva avait fourni dans son dossier refusé.
Ce qui est fascinant ici, c'est la riposte immédiate ne somme va. Ils n'ont pas du tout considéré ça comme une petite péripétie commerciale, genre « Ah bah tant pis !»
Ah non, là c'était la guerre.
C'est ça, ils y voient une appropriation pure et simple de leur travail intellectuel. Donc l'entreprise, elle riposte d'abord par une mise en demeure en novembre 2018.
Classique.
Et ensuite, ils déclenchent les vraies hostilités judiciaires en assignant Evama. Et leurs motifs d'accusation sont particulièrement lourds. Hein.
Ils les attaquent sur quoi alors ?
Ils invoquent la contrefaçon de droit d'auteur, carrément, mais aussi la concurrence déloyale.
D'accord. Tu sais, pour illustrer la frustration de Someva, je pense qu'on peut utiliser une analogie assez parlante avec le monde de la gastronomie.
Vas-y, je t'écoute.
Imaginons un chef cuistot qui passe des mois à inventer une nouvelle recette révolutionnaire de pain artisanal.
Bon, c'est évident qu'il ne peut pas déposer un droit d'auteur sur la farine et l'eau.
Oui, c'est juste des éléments de base. Voilà, c'est purement fonctionnel. Ce qu'il essaie de protéger, c'est sa touche finale, le tour de main spécifique, la forme unique qu'il va donner à la croûte. Enfin, sa signature artistique, quoi.
C'est une très bonne image, ouais.
Et ce que Someva reproche à EFMA, c'est pas de s'être contenté d'utiliser de la farine et de l'eau pour faire un pain. C'est d'avoir copié le geste de l'artisan sans jamais avoir eu à payer pour les mois de recherche dans la cuisine.
Exactement. Et du coup, EFMA a pu proposer un tarif à 75 000 euros précisément parce qu'ils ont fait l'économie de tout ce coût de conception initiale.
C'est limpide, vu comme ça.
Ouais, et c'est exactement pour cette raison que la justice doit intervenir pour trancher. Puisque Someva attaque, le litige arrive devant les tribunaux. Et ça nous propulse direct vers le premier document clé de notre analyse.
L'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en 2024.
C'est ça, et là, soudainement, t'as des magistrats dont le métier habituel, c'est d'appliquer le droit civil ou commercial, qui se retrouvent à devoir disséquer l'esthétique d'étagères conçues pour supporter des poireaux et des carottes.
Ce qui soulève une question hyper évidente, en fait. Comment la société Evema, qui est quand même accusée d'avoir purement et simplement copié le design de son concurrent, s'est défendue devant cette cour d'appel? J'imagine qu'ils sont pas arrivés en disant « Ouais, on a copié, désolé ».
Ah ben non, pas du tout. La ligne des défenses d'Evema, elle est d'un pragmatisme redoutable. Leur argumentaire, c'est de nier en bloc toute notion de création originale dans ces meubles.
Ils disent que c'est banal, en fait.
Ils affirment que s'ils ont produit des présentoirs similaires, c'est tout simplement parce qu'ils répondaient au même cahier des charges.
Celui du Super U.
Oui, celui imposé par l'enseigne Système U, qui était selon eux très strict. Et en plus de ça, Evema souligne qu'ils n'ont fait que s'inscrire dans les grandes tendances esthétiques du moment.
Genre la mode du marché, quoi.
Voilà. Ils prennent d'ailleurs un exemple hyper précis dans leur défense, le concept urbain qui était déployé par Carrefour Market à la même époque. Ce concept utilisait déjà très largement cette fameuse combinaison de bois clair et d'éléments en métal foncé.
Alors, j'avoue que l'argument d'Evema, à première vue, il semble presque inattaquable. Enfin, si toute l'industrie traverse une phase où la mode, c'est le style industriel avec du bois naturel, on peut pas vraiment reprocher à une entreprise de fabriquer du mobilier industriel en bois naturel, non?
C'est vrai que c'est le fond de l'air de l'époque.
Ouais, on peut pas breveter une tendance, quoi.
Eh bien, détrompe-toi. La cour d'appel de Rennes a pourtant rejeté cet argument de la simple tendance.
Ah ouais? Comment ça se fait?
Les juges ont vraiment décortiqué minutieusement le fameux cahier des charges de Système U. Et ils en ont conclu qu'il laissait en réalité une énorme marge de manœuvre au concepteur.
Il n'était pas si strict que ça, donc?
Non. Les directives de l'enseigne n'imposaient absolument pas de dessiner les meubles au millimètre près de cette façon-là.
D'accord.
Et partant de ce constat, la cour s'est vraiment penchée sur l'anatomie même des meubles proposés par Someva. Ils ont cherché des choix arbitraires.
Des choix arbitraires, c'est-à-dire?
Des détails qui n'étaient pas juste dictés par la stricte nécessité fonctionnelle de poser des légumes.
Ok. Et quels sont ces fameux détails que la cour a considérés comme arbitraires du coup?
Prenons le cas du premier meuble, le concept. La cour a relevé la présence de pieds de forme trapézoïdale. Elle a aussi noté l'utilisation de blocs en bois, dont le design imite volontairement l'aspect des cageots traditionnels des petits producteurs.
Ah, pour faire un peu rustique.
C'est ça. Et enfin, elle pointe la présence d'un pare-choc, un bumper fabriqué en inox brossé. Et pour la cour d'appel, l'association de ces éléments hyper précis, ça relève d'une véritable recherche esthétique.
D'un effort de conception, quoi.
Oui, qui dépasse la simple fabrication d'un bac à légumes basique.
Attends. Là, il faut que je fasse une pause parce que, franchement, mon scepticisme est inévitable là-dessus.
Je t'en prie.
Un pied en bois qui s'évase vers le bas pour former un trapèze, c'est avant tout pour la stabilité, non? Et puis, surtout pour éviter que les roues des centaines de caddies viennent s'encastrer dans la structure tous les jours.
Oui, l'aspect pratique est là.
Et pour le pare-choc en inox, enfin, son nom décrit littéralement sa fonction, encaisser les chocs. Comment un juge peut regarder une plainte de protection contre les chariots et se dire « Waouh, voilà une démarche artistique éclatante ».
Bah, la confusion est hyper naturelle, tu sais, car la frontière est effectivement poreuse. En droit de la propriété intellectuelle, surtout appliquée au design, le fait qu'un élément remplisse une fonction technique, ça le disqualifie pas automatiquement du droit d'auteur.
Ah bon ?
Non. La question que se pose le juge, c'est pas « est-ce que ce bumper sert à protéger le meuble ?» La réponse est évidemment oui.
Ok.
La vraie question, c'est « l'auteur était-il obligé de lui donner cette apparence exacte, en inox brossé, avec cette courbure spécifique pour remplir cette fonction ?»
Ah, je vois.
Si la réponse est non, et s'il existait 50 autres façons de protéger le meuble, alors le choix de l'inox brossé devient un choix délibéré. C'est une décision esthétique.
Et c'est comme ça que la Cour de Rennes justifie sa décision.
Exactement. Elle estime que l'usage de faux cageots, par exemple, ça sert à raconter une histoire au consommateur. Ça évoque l'authenticité de la ferme, et donc ça relève bien d'une démarche créative protégeable.
Et cette interprétation de la Cour de Rennes s'est traduite par une victoire écrasante pour le créateur original, Sommet 20. Enfin, si on en croit le document, la sanction financière qui est tombée sur Evma, elle n'avait rien de symbolique.
Les conséquences ont été sévères. Hein. La contrefaçon a été officiellement caractérisée par la Cour. Ils ont estimé qu'Evma avait produit un véritable copier-coller de l'impression d'ensemble conçue par Someva.
Aïe.
Et les sanctions sont tombées en cascade. Evma a été condamnée à verser 10 000 euros au titre de la concurrence déloyale.
Juste pour avoir profité du travail des autres.
Voilà, ça sanctionne le comportement fautif d'Evma. Ils se sont placés dans le sillage de leurs concurrents pour s'économiser le travail de création. Et à cela s'ajoute une indemnisation du préjudice économique stricto sensus.
De quel montant ?
Fixée à 3 204,40 €.
C'est précis.
C'est une somme calculée de manière très chirurgicale, basée sur le taux de marge que Someva aurait dû réaliser.
D'accord.
Mais la sanction la plus lourde, c'est peut-être la sanction matérielle. La Cour ordonne carrément l'interdiction formelle de fabriquer et de commercialiser ce mobilier.
Oula.
Sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'à ce stade du récit, on a le sentiment d'une boucle parfaitement bouclée, tu vois.
Le gentil créateur qui gagne.
Voilà, le créateur qui a investi du temps, de l'argent dans la recherche, il triomphe de l'entreprise qui a cherché à tricher avec la copie. Fin, l'affaire semble pliée.
Et pourtant.
Ouais. Le système juridique français est structuré de telle sorte qu'il existe une instance ultime qui est capable de tout remettre en question. Et c'est ce qui nous amène à notre second document.
L'arrêt de la Cour de cassation, rendu en avril 2026.
C'est le vrai coup de théâtre de cette histoire.
Un revirement magistral, ouais. Et pour bien comprendre ce qui se joue ici, c'est hyper crucial de rappeler le rôle très singulier de la Cour de cassation.
C'est pas juste un troisième tribunal.
Non, justement, elle constitue pas un troisième degré de juridiction classique. Les magistrats de cette cour, ils ne rejugent pas les faits de l'affaire. Ils vont pas du tout étaler les photos des présentoirs sur la table pour débattre du design des faux cageots, tu vois.
Ils s'en fichent des cageots.
Totalement. Leur unique mission, c'est de vérifier si la cour d'appel de Rennes a appliqué la loi correctement.
Et alors ?
Et leur verdict est sans appel. Ils annulent une très grande partie de la décision de Rennes.
L'annulation pure et simple. C'est un retournement de situation brutal. Mais sur quel motif juridique précis la Cour de cassation s'appuie pour déconstruire le raisonnement de la Cour d'appel ? Qu'est-ce qui a closé à Rennes, en fait ?
Le point d'achoppement y réside dans le concept le plus insaisissable du droit d'auteur, mais aussi le plus fondamental. C'est ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité.
L'empreinte de la personnalité ? C'est-à-dire ?
En gros, la haute juridiction adresse un reproche très méthodique à la Cour d'appel. Elle leur dit que pour accorder la protection du droit d'auteur à un objet industriel, dresser un petit inventaire des choix esthétiques, ça suffit pas.
Ça fait juste catalogue, quoi.
Voilà. C'est une condition nécessaire, mais c'est pas suffisant. La Cour d'appel, elle s'était contentée de faire un catalogue. Elle a noté le bois, le métal foncé, l'inox, la forme du trapèze. Mais la loi exige d'aller beaucoup plus loin que ça.
Comment ça ?
Le juge doit impérativement démontrer en quoi ses choix, même s'ils sont libres, traduisent concrètement la personnalité, l'esprit ou la vision singulière du créateur.
Autrement dit, la Cour de cassation reproche au juge de Rennes d'avoir confondu le bon design et le droit d'auteur.
Exactement.
Enfin, créer un bel objet avec une harmonie de matériaux, ça prouve juste que t'as un bon département design chez toi. Ça prouve pas que t'as infusé ton âme dans le bac à légumes.
Et c'est l'erreur classique, de penser que l'originalité se décrète par la simple addition de détails sympas et inédits. La Cour de cassation a vraiment pris le soin de démonter le raisonnement de la Cour d'appel, meuble par meuble.
Ah ouais, donne-moi un exemple.
Reprenons le premier meuble, le concept. La cour d'appel de Rennes avait souligné le choix des pieds trapézoïdaux et des finitions en inox. Mais la cour de cassation intervient et dit « À aucun moment, l'arrêt de Rennes n'a expliqué comment cette association spécifique de métal et de formes géométriques révèle la personnalité de l'auteur de chez Someva. »
Et ça, en droit, ça passe pas.
Non, c'est une faille de motivation juridique majeure.
Ok. Et qu'en est-il de l'habillage gondole, le deuxième meuble? Est-ce que l'analyse de Rennes a pêché de la même manière là-dessus?
Alors pour l'habillage gondole, la Cour de cassation pointe une erreur de méthode un peu différente. La Cour d'appel s'était concentrée sur un détail extrêmement précis de ce meuble, à savoir la présence d'un encadrement partiellement évidé sur la partie haute.
Un petit détail, quoi.
Ouais. Et sur la base de ce seul élément original, ils avaient accordé la protection à l'ensemble de la grosse structure.
Ah, je vois le problème.
La Cour de cassation rectifie le tir et assez sèchement. L'originalité d'une œuvre, ça peut pas se juger par le petit bout de la lorgnette. Elle doit s'apprécier globalement dans la combinaison de tous ces éléments.
Enfin, un seul détail original, ça vient pas contaminer par magie tout le reste d'un objet banal pour en faire une œuvre d'art.
Exactement. Mais là où l'intervention de la Cour de cassation me semble vraiment la plus décisive, c'est concernant le fameux mural bio.
Oui, le mural bio. On se souvient que c'était ce meuble un peu complexe qui intégrait directement dans la structure un espace dédié à la pesée des légumes et même une machine pour presser les agrumes.
Tout à fait.
Sur le papier, ça ressemble quand même à une véritable innovation de design par rapport à une bête étagère plate.
Eh bien, c'est justement là que la nuance juridique est hyper fine. Parce que la cour d'appel de Rennes s'était émerveillée de cette multifonctionnalité. Ils y voyaient la preuve irréfutable d'un effort créatif.
Et la cour de cassation a dit non.
Ils ont rejeté totalement cette approche. Ils énoncent très clairement que le fait d'intégrer des espaces dédiés au pesage ou au pressage, ça relève de la pure logique utilitaire et ergonomique.
C'est juste pratique, quoi.
Optimiser l'espace pour que le client puisse peser ses pommes juste à côté du bac, c'est de l'ingénierie commerciale brillante, oui, c'est super pratique. Mais ça n'a strictement rien à voir avec l'expression d'une démarche artistique personnelle. Oui, c'est super pratique.
Résoudre un problème fonctionnel, ça ne confère pas l'empreinte de la personnalité.
C'est la phrase à retenir.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Parce que, franchement, à l'écoute de cette dissection implacable par la Cour de cassation, on peut avoir le vertige. Hein.
C'est sûr que c'est sévère.
Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train d'exiger des concepteurs industriels une dose de poésie genre totalement irréaliste?
C'est la grande critique, oui.
S'il faut prouver que l'intégration d'une balance à légumes, ça reflète les tourments intérieurs ou la vision du monde de son créateur, la barre, elle est placée tellement haut qu'elle semble inatteignable.
Je comprends.
Cette exigence d'empreinte de la personnalité, ça revient pas de facto à vider le droit d'auteur de toute sa substance pour l'immense majorité des objets de notre quotidien.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, il est fondamental de ne pas faire dire à la Cour de cassation ce qu'elle n'a pas dit, tu vois?
C'est-à-dire?
Elle ne décrète à aucun moment que les présentoirs de Someva sont dépourvus d'originalité ou qu'ils ne pourront jamais être protégés par le droit d'auteur.
Ah, d'accord, donc il y a encore de l'espoir.
Son message, il s'adresse avant tout aux juges. Elle leur dit juste que la protection juridique d'un objet utilitaire, ça se présume pas au doigt mouillé juste parce que l'objet a de l'allure. Ça exige une démonstration intellectuelle ultra rigoureuse.
Donc l'affaire n'est pas terminée.
Pas du tout. L'affaire n'est pas enterrée. En annulant la décision, la Cour de cassation a renvoyé l'ensemble du dossier devant la Cour d'appel d'Angers, cette fois.
Une nouvelle équipe de juges, donc.
Voilà, et ce sera à ces nouveaux magistrats de rejuger l'affaire sur le fond. Mais avec une consigne claire, se conformer à ces standards d'analyse particulièrement stricts.
C'est fou. Enfin, selon Voyage procédural, là du supermarché breton jusqu'aux ors de la plus haute juridiction française, ça agit vraiment comme un puissant révélateur.
Ah bah complètement.
Ça démontre à quiconque travaille dans la création que produire des rendus 3D magnifiques, avoir une idée novatrice pour agencer un espace ou créer un meuble visuellement hyper séduisant, ça garantit absolument pas un bouclier juridique contre l'imitation.
Et non, c'est plus compliqué que ça.
Pour espérer franchir la barrière impitoyable du droit d'auteur, il suffit pas de montrer le résultat final. Faut être capable de raconter et de prouver l'histoire d'une intention.
Exactement.
Enfin, faut démontrer que la forme de l'objet, elle échappe au moins en partie à la dictature de l'utilité pure pour devenir le miroir d'un choix humain délibéré.
Cela soulève une question importante, d'ailleurs, concernant les pratiques de toute une industrie aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça change pour eux?
Pour les agences d'agencement, les designers industriels ou même les concepteurs de mobilier, cette jurisprudence, elle impose un changement de méthode qui est drastique, Demain, en cas de litige, brandir le beau meuble fini devant le juge, ce sera insuffisant.
Il faudra amener tout le dossier ?
Plus que ça. Les entreprises vont devoir adopter une rigueur quasi scientifique dans l'archivage de leur processus créatif. Faudra conserver les tout premiers croquis, documenter les hésitations, garder la trace des pistes qui ont été rejetées, tu vois.
Un vrai travail de mémoire, quoi.
C'est ça. Faudra surtout être capable d'expliquer noir sur blanc pourquoi on a préféré une courbure hyper complexe à une ligne droite basique. Et non pas parce que ça coûtait moins cher, mais bien pour une raison de pure expression artistique.
Waouh !
L'effort ne se situe plus du tout seulement dans la conception, il se situe dans la documentation méticuleuse de l'acte de concevoir.
Ce qui m'amène à une ultime réflexion, peut-être un peu provocatrice, hein, mais que la réalité de notre époque impose presque de méditer quand on y pense.
Vas-y, dis-nous tout.
Le débat qui anime cette affaire Someva contre Evma, il semble profondément ancré dans une conception classique du métier de designer. Enfin, où l'humain fait des choix en se basant sur son intuition, sa sensibilité, son âme, quoi.
Oui, l'humain en centre.
Mais aujourd'hui, le design des grands espaces commerciaux, c'est en train de devenir une science exacte, froide et hyper calculée.
Avec la data.
Mais grave, les enseignes massives, elles s'appuient sur l'analyse de milliards de données de comportement des consommateurs. Elles utilisent des caméras d'oculométrie pour traquer la moindre variation de la pupille et définir exactement où le regard se pose.
C'est vrai que c'est effrayant et fascinant à la fois.
Et surtout, l'intelligence artificielle est de plus en plus sollicitée pour générer, de manière algorithmique, l'espace de vente parfait. La hauteur millimétrée des étagères, l'inclinaison mathématiquement idéale d'un plateau pour maximiser la tentation d'achat.
Le fameux marketing scientifique.
Voilà. Et face à cette rationalisation et cette optimisation extrême, où la machine décide de la forme en fonction d'un objectif de rentabilité pure, la notion juridique même d'empreinte de la personnalité, elle risque pas de devenir un concept archaïque, non ?
Une relique du passé, en somme.
C'est ça. Si demain l'architecture d'un présentoir à fruits est dictée à 99% par l'efficacité algorithmique, est-ce qu'il restera la moindre fissure par laquelle le droit d'auteur humain pourra encore s'immiscer ?
C'est une excellente question, ouais.
Enfin, la prochaine fois qu'on saisira machinalement un filet de pommes de terre au supermarché, on pourra observer le meuble qui nous fait face avec un regard nouveau et se poser la question, sommes-nous devant le dernier vestige de l'âme d'un créateur luttant pour sa survie juridique ou devant la matérialisation silencieuse et parfaite d'une équation marchande insoluble ?